France Inter, franceinter.com.
Aujourd'hui, bien la première remise en cause de l'impérialisme et du colonialisme, c'était il y a 500 ans, la controverse de Valladolid. Depuis qu'ils sont aux Indes, les Espagnols ont fait plus de sacrifices à leur cupidité que les Indiens à leur dieu. Grande devrait être notre honte d'excuser des œuvres aussi abominables. Las Casas à Valladolid, en 1552. ...2000 ans d'histoire. On n'a pas attendu le XXe siècle et la fin des empires coloniaux pour que, dès le début de la conquête de l'Amérique, un évêque qui y avait participé, Bartolomé de Las Casas, dénonce les crimes des conquistadors dans ce qu'on appelait encore les Indes. C'était en 1550, dans la vieille cité castillane de Valladolid, où Charles Quint avait réuni les plus grands philosophes et théologiens de l'époque pour discuter de la légitimité de l'immense empire construit par les Espagnols en Amérique 58 ans après sa découverte par Christophe Colomb en 1492.
Don Cristóbal.
Par la grâce de Dieu, en lieu et place de leur gracieuse majesté de Castille et d'Aragon, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare espagnole cette terre que j'appelle San Salvador.
Nestor Capdevila, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université de Paris-10-Nanterre et vous venez de publier le texte d'une controverse très importante dans l'histoire de la colonisation, la controverse de Valladolid, qui a opposé deux théologiens et puis deux conceptions radicalement opposées de la colonisation de l'Amérique par les Espagnols. Mais ce débat, c'est aussi ce qui le rend très actuel, et vous en parlez longuement, c'est aussi une réflexion sur l'impérialisme à une époque où l'Espagne était en train de construire un empire sans équivalent dans l'histoire à ce moment-là.
Oui, alors le Charles Quint donc est empereur, donc on est dans le sillage de l'histoire européenne, mais évidemment avec la découverte du Nouveau Monde, à ce moment-là l'idée d'empire voit son objet modifié, puisque jusque-là le monde c'était l'Europe, et désormais le monde ça devient la terre entière, puisqu'elle est les terres connues sont en voie d'expansion, et donc à ce moment-là il faut retransformer l'idée d'empire. Donc on a dans la controverse, c'est un débat qui porte sur l'idée d'empire et sur lui donner d'une nouvelle signification qui est en décalage avec la tradition européenne qui était limitée à l'Europe.
Oui, parce qu'avant, il y avait des empereurs. Généralement, leur empire se limitait à un continent. Parfois, il y en avait deux en même temps. Il y avait quand même cette notion importante qui était une notion religieuse en ce qui concerne les empereurs romains après Constantin, en ce qui concerne Charlemagne, aussi sacré par le pape. Et d'ailleurs, l'empire de Charles Quint, quand il devient empereur, parce qu'il en hérite, étant devenu roi de Castille et d'Aragon, il hérite évidemment de ce qu'avait donné le pape, justement, au roi de Castille et d'Aragon, en partageant l'Amérique, ce continent nouveau, et ça c'était dès 1493-1494, en partageant ce nouveau continent entre ces deux premiers découvreurs, les Portugais et les Espagnols. Donc c'est quand même un don du pape aussi, cet empire.
Alors l'idée d'empire, la caractéristique de l'idée d'empire, c'est d'être un pouvoir universel par opposition aux États qui sont des pouvoirs particuliers. Donc on peut avoir des rois qui sont soumis à l'empereur. Alors il y a un deuxième pouvoir universel qui est le pouvoir de la papauté, qui est un pouvoir qui concerne l'ordre religieux, mais par le biais de l'ordre religieux, les papes peuvent revendiquer un pouvoir réel sur les souverains temporel. Alors dans le cadre de la bulle d'Alexandre VI, par laquelle le pape a donné un peu l'Amérique, enfin partagé l'Amérique entre l'Espagne et le Portugal, le pape use de ce pouvoir qu'il était traditionnellement reconnu, enfin, il était l'arbitre entre les revendications espagnoles et portugaises. Donc là, c'est l'universel papal qui est intervenu à ce moment-là. Et Charles Quint va hériter de ces territoires, mais il ne va pas les hériter en tant qu'empereur, il va les hériter en tant que roi de Castille et d'Aragon, puisque c'est même en tant que roi de Castille, puisqu'en fait, c'est la Castille qui a le contrôle des terres américaines. Donc, si on parle de l'empire américain de Charles Quint, c'est un empire qui n'est pas fondé sur le titre impérial, mais sur, évidemment, la donation du pape à la Castille.
Avec pour justification, ce qui va servir à justifier la conquête, la colonisation, c'est la conversion, alors ça c'est une autre nouveauté aussi, des premiers habitants de l'Amérique, les Indiens. Est-ce que ce n'est pas aussi pour régler leur sort, pour voir ce qu'on allait faire, comment les convertir, que cette controverse a été organisée, il faut le rappeler, donc par Charles Quint en 1550?
Alors l'objectif permanent de l'Espagne a été la conversion. Donc, la bulle d'Alexandre VI dit la chose suivante, qu'il a appris que Christophe Colomb avait découvert de nouvelles terres, qu'il y avait des nouveaux gens à convertir, et que pour qu'on puisse les convertir, le pape donnait à ce moment-là la souveraineté sur ces terres découvertes et à découvrir. Donc il y a une volonté de convertir qui est partagée par tous les intervenants du débat. Alors, l'objet de la controverse est de savoir quelle est la meilleure manière de convertir. Et donc là, les deux positions qui se sont affrontées, il y a la position de Sépulveda qui est de dire, ben voilà, pour convertir, il faut d'abord conquérir les territoires, les soumettre ces hommes, et puis après, on pourra prêcher la foi commodément. Et la position inverse est défendue par Las Casas, c'est-à-dire, ils sont souverains sur leurs terres, et il faut les convertir de manière purement pacifique, leur annoncer la foi, et puis s'ils veulent se soumettre à notre pouvoir, à ce moment-là, ils se soumettront.
Donc l'objet de ce débat qui s'ouvre à Valladolid en 1550.
Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Et nous avons réuni ici, à Valladolid, quelques témoins et participants, et tout d'abord le très illustre frère Bartolomé de Las Casas, qui connaît bien les terres nouvelles et qui plusieurs fois prit la défense de ces indigènes. En face, nous avons Maître Sepúlveda lui-même. Ses œuvres philosophiques sont très bien connues. Son érudition et la pénétration de son esprit nous seront précieuses. J'espère que Dieu nous assistera.
Et c'était un extrait du film de Jean-Daniel Verrègue, La controverse de Valladolid, avec Jean Carmet, au début d'une controverse justement qui a surtout opposé deux hommes, on vient de l'entendre, qui c'était d'une part Maître Sepúlveda et puis Bartolomé de Las Casas, un défenseur des Indiens, mais qui avait lui-même participé à la colonisation de l'Amérique dès le début. Je crois dès le début, dès 1502, il arrive en Amérique.
Oui, effectivement. Donc, Las Casas d'abord était un colon, un clerc qui a été colon. Donc, il a participé à la pacification de Cuba. Il a eu des Indiens en encomienda. Alors, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire, il faut distinguer l'encomienda et l'esclavage.
L'encomienda, c'est l'exploitation.
C'est-à-dire qu'on les conquistadors, enfin, les recevaient le droit d'utiliser des Indiens en échange de leur éducation. Mais ce n'était pas une propriété. Donc ce n'était pas un esclavage, donc il n'y a pas de propriété. Et donc lui, il a eu des Indiens en encomienda, donc ils étaient soumis à un fort régime d'exploitation. Et la condition donc des Indiens a été dénoncée dès 1511 par un dominicain qui s'appelle Montesinos. Et ça a déclenché la première polémique sur le statut de la des Indiens, le statut juridique des Indiens, et la question même de la légitimité de cet empire a été posée à ce moment-là, puisqu'il y a une lettre de Ferdinand où il dit, voilà, nous avons un droit juste, puisque le pape nous a donné cette terre.
Ferdinand, le roi de Castille.
Et donc, c'est dès cette époque-là que la question des titres a été mise en discussion de manière plus ou moins directe. Plus ou moins directe. Donc Las Casas, lui, a continué à bénéficier de ces Indiens et à un moment, il a une espèce de une première conversion. Donc à ce moment-là, il passe à la cause de défense des Indiens et donc là, il va consacrer sa vie à la défense donc, des Indiens. Il va aller en Espagne auprès de la couronne pour obtenir. Alors il va imaginer élaborer des projets de colonisation pacifique qui vont tous...
Au Venezuela.
Oui, qui vont tous échouer. Et après, il rentre dans l'ordre des Dominicains. Oui. Et donc après, toute sa vie est exclusivement consacrée à la défense des Indiens avec une radicalisation de plus en plus forte de sa position.
Frère Bartholomé, vous avez la parole.
Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. D'abord, on les marque comme esclaves au fer rouge du nom de leurs propriétaires. Par la suite, on les achetait en masse dans des mines d'or et d'argent. Et là, ils meurent par milliers.
Vous parliez aussi de massacres.
Oui. Éminent, c'est par millions qu'ils ont été exterminés. Tout ce que j'ai vu, je l'ai vu se faire au nom du Christ. J'ai vu des Espagnols prendre la graisse d'Indiens vivants pour panser leurs propres blessures. J'ai vu à Cuba, dans un lieu qui s'appelle Caonao, une troupe d'Espagnols faire halte dans le lit d'un torrent desséché. Là, ils aiguisèrent leurs épées sur des pierres, puis ils s'avancèrent vers un village et dirent « Tiens, si on essayait le tranchant de nos armes ». Et ils se mirent à éventrer à l'aveuglette tous les habitants qui étaient assis bien tranquilles. Tous massacrés, le sang ruisselait de partout.
Vous étiez présent ?
J'étais le Romonier.
Et c'était un autre extrait de la controverse de Valladolid, Jean-Pierre Marielle, dans le rôle de Las Casas, dénonçant ce qu'on appellerait aujourd'hui un génocide, même si le mot ne date que de 1945, 400 ans après. Est-ce que c'est pas, c'est un mot d'ailleurs que vous employez, génocide, à propos de cette colonisation que beaucoup d'historiens ont employé, est-ce que c'est pas un anachronisme de parler de génocide 400 ans avant que le mot n'apparaisse?
Je n'emploie pas le mot, j'examine la discussion. La discussion autour de l'usage du mot. Alors, c'est un problème extrêmement compliqué, c'est très débattu, parce que tout dépend du sens qu'on donne aux mots. Quand il est question de génocide, il y a de multiples définitions. Alors, une des caractéristiques des livres sur les génocides, c'est que souvent les gens disent, voilà, la définition officielle n'est pas bonne, à ce moment-là, je propose une autre définition qui va être plus précise. Alors évidemment, selon la définition que l'on donne, le jugement change. Par exemple, dans la définition officielle, il n'est pas question de groupe politique. Donc, par exemple, l'Union soviétique, la décolonisation ne tombe pas sous le coup du génocide. Si on introduit les groupes politiques, à ce moment-là, les choses changent. Donc, il y a un problème de définition. Alors, si on en revient
les Indiens, la population indienne s'est effondrée après la mort.
Oui, alors, si on en revient à Las Casas lui-même, son livre le plus célèbre, ça s'appelle « La destruction des Indes ». Et ce qu'il entend par la destruction, c'est bien la mort physique des individus. On peut considérer que c'est un inventeur de la thématique du génocide. Quand Raphaël Lemkin définit le génocide, c'est la destruction d'un groupe. Et Raphaël Lemkin, en 1943-1944, quand il écrit son livre où il introduit le terme, c'est dans le contexte de la destruction de l'Europe par l'Allemagne nazie. Donc il y a une parenté indiscutable dans leur perspective.
Parce que vous le rappelez, en fait, pour qu'il y ait génocide, il faut quand même volonté d'éliminer un peuple. Or, vous le citez, Las Casas se dit lui-même, je ne dis pas qu'ils veulent les tuer, en parlant des Espagnols, qu'ils veulent les tuer directement en raison de la haine qu'ils leur porteraient, mais qu'ils veulent être riches et posséder beaucoup d'or, ce qui est leur objectif. Et donc c'est parce qu'ils cherchaient de l'or, c'est par cupidité, et en exploitant jusqu'à la mort des Indiens comme esclaves dans les mines, que finalement c'est une conséquence, le génocide, une conséquence, c'est pas la volonté délibérée d'éliminer les Indiens, au contraire, ils veulent les exploiter. Mais c'est plutôt une conséquence, de même d'ailleurs, vous le citez, qu'une autre cause au fond de ce génocide, c'est-à-dire le choc microbien, les maladies apportées par les conquérants, par les Espagnols.
Voilà, le choc microbien, ça a un effet assez négligeable sur la discussion, parce que si vous avez 10 millions de personnes qui meurent, il y en a 5 millions qui meurent de maladies, il se peut que les 5 autres millions soient victimes du génocide ou que seulement une partie. Donc c'est pas un argument décisif. Alors, par contre, la question de l'intention est importante, ça c'est un aspect central dans la définition telle qu'elle existe. Et il n'y a pas eu, effectivement, dans le cadre de l'Espagne, de volonté de tuer. Au contraire, il y a toute une législation protectrice justice qui a été mise en place justement à la suite de l'intervention de Montesinos et qui s'est poursuivie pendant toute la conquête. Donc ça c'est une question qui est débattue parmi les gens qui polémiquent sur le sens du terme, de savoir quel poids il faut accorder à l'intention ou pas. Alors il est évident que dans le poids accordé à l'intention, on a un modèle, c'est le modèle nazi évidemment, où on a une action de destructrice et libérée. Et là on est dans un contexte qui est très différent du contexte nazi, puisqu'on est dans un contexte universaliste, avec une volonté de convertir, une volonté de rechercher le bien, etc. Donc il peut évidemment, il n'y a pas cette intention, c'est clair.
Las Casas qui disait aussi, quand nous disons que l'on a détruit à votre majesté, il parle de l'empereur, sept royaumes plus grands que celui de l'Espagne, il faut comprendre que nous les vîmes remplis de gens comme une ruche est pleine d'abeilles et que maintenant ils sont tous dépeuplés parce que les Espagnols ont tué. Alors du coup, Las Casas condamne bien sûr, non pas l'Empire, non pas la conquête, mais la façon dont elle s'est produite, et c'est en cela qu'il s'oppose totalement à Sepúlveda. On n'en a pas parlé, il est beaucoup moins connu que Las Casas, il faut peut-être rappeler quand même que c'est à l'époque un théologien renommé, Néstor Capdevila.
Alors je précise, Las Casas condamne la conquête.
Il
condamne tout ce qui a été fait du début jusqu'à la fin. Pour lui, l'Empire juridiquement n'existe pas.
Alors Sepúlveda, alors qui est en face de lui, qui est-ce? Parce qu'il est beaucoup moins que...
Alors lui, c'est une... À l'époque de la controverse, c'était le chroniqueur officiel de Charles Quint, le précepteur de Philippe II, du prince Philippe. Et avant, il avait travaillé pour le pape, Clément VII, qui était l'ennemi de Charles Quint, donc il a changé de camp. Et c'est avant tout un humaniste, c'est-à-dire c'est un humaniste qui a... Son grand œuvre, c'est de traduire les œuvres d'Aristote et de les commenter, qui a intervenu sur tous les grands sujets de l'époque. Il a polémiqué avec Erasme, Luther. Donc c'est un grand intellectuel de l'époque.
Oui, un humaniste peut-être pas au sens où on le décrirait, où on le définirait aujourd'hui, puisqu'il était aussi un grand défenseur, vous le dites, de la conquête de l'Amérique, qu'il justifie justement en évoquant un des plus grands philosophes de l'Antiquité.
Aristote l'a dit très clairement, certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres.
À votre avis, c'est ici le cas?
Oui, éminence. Ils sont esclaves par nature.
Ils ignorent l'usage du métal, des armes à feu et de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos comme des bêtes pendant de longs parcours. Leur nourriture est détestable, semblable à celle des animaux. Ils se peignent grossièrement le corps et adorent des idoles affreuses.
Eux qui sacrifiaient à leurs idoles des milliers, des dizaines de milliers de victimes. 80 000 pour la seule inauguration du Grand Temple de Mexico.
Le chiffre est loin d'être prouvé.
Mais c'est le plus... barbare, le plus sanglant des peuples, sodomite, oui, et cannibale, vous avez oublié de le rappeler. Ils aléatondi le ventre gonflé de chair humaine. Ils ont tué des Espagnols et ils les ont mangés. Non seulement il est juste, mais il est nécessaire de soumettre leur corps à l'esclavage et leur esprit à la vraie religion.
On a reconnu Néstor, vous avez reconnu Néstor Capdevila, vous avez reconnu la voix de Jean-Louis Trintignant dans le rôle de Sepúlveda, l'adversaire de Las Casas dans cette fameuse controverse de Valladolid. Sepúlveda invoquant la barbarie des Indiens, sodomites, cannibales, idolâtres. Au fond, c'est au nom de cela que c'est tout cela qui justifie justement aux yeux de Sepúlveda la conquête de l'Amérique et des Indiens.
Oui, c'est le titre fondamental, c'est celui de la barbarie indienne. Et l'idée inspirée d'Aristote, qui est celle de la servitude naturelle, c'est-à-dire que certains hommes sont naturellement soumis à des hommes plus éclairés, plus intelligents. Il faut distinguer ça de la question de l'esclavage. Alors, chez Aristote, c'était lié à la question juridique de l'esclavage, et ici, c'est dissocié. C'est-à-dire ici, la servitude naturelle, ça veut dire qu'ils doivent obéir au peuple plus civilisé, mais ça ne veut pas dire que juridiquement, souvent ils seront esclaves. Mmh. On peut très bien leur reconnaître une liberté plus ou moins grande. Alors la question de la barbarie est absolument centrale, parce qu'une des dès que la discussion a été posée, alors le premier à avoir premier exposé systématique de la question des titres de l'Empire, qui fonde l'Empire, c'est Vittoria, c'est le très grand théologien de Salamanque, qui pour certains juristes est le fondateur même du droit international, avec, mm-hmm. avec les leçons sur les Indiens. Alors le gros problème, c'était de trouver des causes qui justifiaient la guerre. Alors traditionnellement, la guerre juste, c'est une guerre défensive, donc il faut qu'on ait été agressé, et donc à ce moment-là, on se défend. Alors évidemment, le cas des Indiens est un peu particulier, puisqu'il n'y avait aucun contact entre les Européens. Donc l'usage habituel de la théorie de la guerre juste est inefficace dans le cas de l'Amérique. Et donc ces Poulouda trouvent avec la thèse de la servitude naturelle une justification de la guerre qui ne suppose aucune faute de la part des Indiens. C'est-à-dire par nature, ils sont déjà soumis. Mmh. Et c'est le fait de leur barbarie, ils doivent accepter et reconnaître la supériorité des Espagnols.
Et ils doivent aussi se convertir, puisque c'est la finalité de la conquête, hein, telle que la voulait le pape quand il a donné la moitié de l'Amérique, et même plus de la moitié d'ailleurs en réalité, à l'Espagne. Et alors, vous citez un texte justement dans lequel on demandait aux Indiens de se convertir, eux qui ne savaient pas lire, on leur soumettait ce texte qui est très long, que vous reproduisez dans ce livre, et qui se termine de la manière suivante. Et si vous ne le faites pas, si vous ne vous convertissez pas, ou que vous y mettiez malignement du retard, je vous certifie qu'avec l'aide de Dieu, nous vous attaquerons de toute notre puissance et vous ferons la guerre partout et de toutes les façons possibles, et que nous vous soumettrons au joug et à l'obéissance de l'Église et de leurs altesses, et que nous vous prendrons, vous, vos femmes et vos enfants, pour faire de vous des esclaves. Hein, c'est assez terrible, d'autant plus qu'on soumettait ça aux Indiens, vous le dites vous-même, Nestor Capdevila, ils ne savaient pas lire.
Oui, alors c'est un des textes les plus célèbres de la période de la conquête. C'est un texte parfaitement officiel, c'est une obligation que les conquistadors avaient de faire cette sommation avant de faire la guerre.
Le requerimiento.
Le requerimiento, ouais, sinon la guerre ne pouvait pas être considérée comme juste. Alors c'est un texte qui exprime la revendication, une revendication a priori des Espagnols sur les terres américaines et sur les Indiens. C'est-à-dire il y a par nature, ils ont cette supériorité. Donc c'est un texte qui exprime parfaitement l'idée de servitude naturelle, même si ce n'est pas la doctrine de Sepúlveda de la servitude naturelle inspirée d'Aristote qui est invoquée, c'est la thèse de la souveraineté universelle du pape.
En tout cas, Sepúlveda justifie donc ainsi la colonisation et même l'esclavage et même la violence, à condition que les Indiens se... pour convertir les Indiens. Ça, c'est la différence avec Las Casas, qui, lui, considère les Indiens comme des êtres libres et contre lesquels la violence ne doit pas être utilisée, même s'ils ne se convertissent pas. Ils ne sont pas obligés de le faire, dit Las Casas.
Oui, alors la thèse fondamentale, c'est celle de la barbarie. Et donc, tant que Las Casas n'arrive pas à répliquer sur la thèse de la barbarie, il est extrêmement difficile d'échapper à la justification de la conquête. Donc son argumentation l'amène progressivement à rejeter complètement l'idée de barbarie indienne et en particulier à justifier les sacrifices humains du point de vue de la loi naturelle. Du coup, les Indiens sont pleinement maîtres d'eux-mêmes sur leurs terres et sont pleinement souverains. Et donc il n'y a aucun titre qui puisse justifier l'usage de la violence contre eux. Donc on peut chercher les convertir, mais par des voies purement pacifiques. Ils n'ont aucune obligation de se soumettre.
Donc Las Casas, Sepúlveda, deux conceptions radicalement opposées jusqu'à la fin de la controverse de Valladolid en 1551.
Que proposez-vous, frère Bartholomé ?
Il faut rendre aux Indiens leur liberté première, car ils sont libres par nature. Je propose que les Espagnols se retirent des terres nouvelles, sinon l'Espagne sera maudite et durement frappée par Dieu.
Non. C'est précisément le contraire. On tressera des louanges à l'Espagne pour avoir débarrassé la terre d'une espèce sanguinaire et maudite, d'en avoir amené certains au vrai Dieu, de leur avoir appris tout ce que nous savons. Et surtout, on reconnaîtra nos efforts pour faire apparaître la vérité. Notre rencontre ici, notre discussion, n'a pas d'autre exemple dans l'histoire des nations. Elle sera toute à la gloire de l'Espagne. La question n'est pas d'abandonner les Indes. Nous savons bien qu'il s'agit là d'un rêve et que toujours nous resterons là-bas.
Et sur ce point, frère Bartholomé, nous différons.
Il y a un point sur lequel Sepúlveda, en tout cas, a raison. C'est vrai que c'est un peu la gloire de l'Espagne, cette controverse de Valladolid. On n'a jamais vu un empire se remettre ainsi en question. Cela dit, est-ce que ça a eu, cette controverse, qui a eu un grand retentissement en Espagne, comme ça, au XVIe siècle, est-ce qu'elle a eu des conséquences concrètes sur la colonisation, sur l'empire espagnol en Amérique ?
Alors, à proprement parler, l'empire ne s'est pas remis en question. C'est-à-dire, son intention était simplement de savoir comment conquérir d'une manière qui soit moralement et juridiquement acceptable. Donc, c'est de poursuivre la conquête dans de bonnes conditions. Et il se trouve que dans le cadre de la discussion, évidemment, c'est la légitimité de l'empire qui a été mise en cause. Mais oui. C'est que l'objet de la controverse elle-même ne correspond pas exactement aux intentions de la couronne au départ. Et donc, on a évidemment, mais ça reste quand même un événement assez singulier, effectivement, où il y a un débat d'une très grande radicalité. Et ce qui est le point important, c'est que c'est un débat qui se fait à l'intérieur du pouvoir impérial. Oui. C'est-à-dire, les deux ont exactement les mêmes objectifs. Ils veulent fonder un empire sur l'Amérique, mais c'est à partir des idées partagées, qui sont celles du catholicisme, du XVIe siècle, que se développent ces deux positions fondamentalement opposées.
Mais est-ce qu'il y a eu des conséquences concrètes de tout ça ? Est-ce que Charles Quint en a tiré des conséquences ? On dit qu'il a interrompu la conquête pendant un moment, oui, impressionné par les arguments de Las Casas.
La suspension de la conquête il y a eu une suspension de la conquête au moment de l'organisation de la controverse, mais de fait, la conquête s'est poursuivie après jusqu'au Chili, etc. Les deux adversaires ont développé des positions qui n'étaient pas acceptables pour le pouvoir impérial. Donc, du point de vue de Las Casas, c'est évident, puisque ça revient à condamner l'Empire. Et du point de vue de Sepúlveda, c'est pas tellement acceptable du point de vue du pouvoir impérial, parce qu'il accorde trop de pouvoir aux colons. C'est-à-dire, au fond, l'argument de la servitude naturelle veut dire que les Cocortés et ses soldats sont supérieurs aux Aztèques et que eux doivent commander aux Indiens. Et donc, à ce moment-là, évidemment, ça limite le pouvoir impérial. Donc l'argumentation de Sepúlveda n'est pas totalement, elle est très impérialiste, mais pas suffisamment impériale.
Voilà. Il y a une législation qui a quand même essayé de les protéger, ces Indiens, et on dit même que c'est de cette époque que date l'idée de renoncer à l'exploitation des Indiens pour faire appel, ça c'est terrible comme conséquence, aux Africains, à des esclaves africains.
Alors l'introduction des esclaves africains est très ancienne, ça date du temps de Christophe Colomb. Il y a un texte de Las Casas de 1511 où il demande à Sunas qu'on fasse venir des esclaves noirs. Et donc la question des esclaves noirs est plus ancienne. Et ce sont deux questions distinctes. Questions distinctes. Las Casas va, dans l'histoire des Indes, condamne totalement l'esclavage des noirs. Il dit c'est exactement la même chose que pour les Indiens. Mais ce sont deux questions qui sont juridiquement distinctes.
Merci en tout cas de nous avoir rappelé cette controverse très actuel, hein, parce qu'on a l'impression au fond que Las Casas, ce sont les arguments de Frantz Fanon au XXe siècle, et que ceux de Sepúlveda, c'est un peu Jules Ferry, même si c'est la République et non pas la religion qu'il voulait amener dans les colonies. Je rappelle, Nestor Capdevila, que vous êtes l'auteur de l'introduction et de la traduction de La controverse entre Las Casas et Sepúlveda, un texte de Bartolomé de Las Casas, publié aux éditions Vrin dans la collection Textes et commentaires, ainsi que du livre Las Casas, une politique de l'humanité, aux éditions du Cerf. Vous avez pu entendre des extraits des films La controverse de Valladolid de Jean-Daniel Verheugue, et 1480, disponible en DVD chez Coba Film Vidéo, et 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, édité en DVD par Gaumont. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Béziquian, Olivier Riotor, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, et à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans notre émission Jour de la fête de la musique, une histoire des gitans.